le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le service protestant pour cette émission consacrée aux évangéliques. Souvent présentés par les médias comme un courant religieux suspect, ils sont en réalité très divers et très méconnus. Alors au-delà des clichés et des extrêmes, les évangéliques sont des protestants et des chrétiens engagés pour un monde meilleur, à l'exemple de Martin Luther King, pasteur baptiste, du docteur Mukwege, l'homme qui réparait les femmes, prix Nobel de la paix 2018 et pentecôtiste, ou encore du dernier prix Nobel de la paix, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, acteur de réconciliation entre l'Éthiopie et l'Érythrée. En France, il y a près de 700 000 évangéliques, représentés en partie par la Fédération protestante de France. Alors, qui sont vraiment les évangéliques? Je vous propose d'en parler avec nos deux invités. J'ai le plaisir de recevoir ce matin Vincent Miéville, pasteur et président de l'Union des Églises évangéliques libres et président de la coordination évangélique de la Fédération protestante de France. Bonjour.
Bonjour.
À mes côtés également Anne-Laure Danet, pasteur de l'Église protestante unie de tradition luthéro-réformée donc. Vous êtes responsable du service des relations avec les églises chrétiennes à la Fédération protestante de France. Bonjour.
Bonjour.
Alors, première question à vous deux. Pourquoi les évangéliques semblent faire si peur à la société?
Oh, probablement parce qu'ils sont pas très bien connus. On a souvent peur de ceux qu'on ne connaît pas. Et comme les évangéliques en France en particulier sont quand même très minoritaires, donc on les connaît peu. Et je pense que c'est la raison première, c'est ça. C'est le manque de connaissances.
Anne-Laure Danet?
Je ne suis pas sûre que les évangéliques fassent si peur que ça. Il me semble qu'il y a un côté aussi attractif, un étonnement plus qu'une peur. Et aussi, ils suscitent une certaine curiosité, justement parce qu'ils sont peu connus. Et puis quand on commence à les approcher, on se dit, mais qui sont-ils? Voilà, ça sort de mon monde, alors peut-être qu'il y a plus une curiosité et un étonnement qu'une peur.
Alors les évangéliques sont souvent mal compris des médias, de la société. Quels sont les clichés que vous avez notés sur ce courant évangélique et comment aller au-delà de ces clichés?
Alors, effectivement, il y a des clichés qui sont principalement véhiculés par les médias et qui, en général, donnent le reflet d'un certain évangélisme qui existe, mais qui n'est pas la réalité de tout le monde évangélique. Ce qui fait qu'on voit plutôt des images de personnes très extraverties, et là c'est peut-être un euphémisme que de dire les choses comme ça, où on va montrer des excès, parce qu'il y a des excès chez les évangéliques comme partout ailleurs, hein, des extrémistes, il y en a partout. Et c'est beaucoup plus spectaculaire de montrer ça à la télévision que des évangéliques beaucoup plus posés. Donc je pense qu'il y a cette exubérance parfois, qui fait que parfois on les perçoit un petit peu mal. Je pense qu'il y a aussi l'association à une vision peut-être liée à l'étranger par rapport aux évangéliques. On associe aux évangéliques aujourd'hui notamment les électeurs de Trump ou de Bolsonaro, ce qui est très réducteur déjà en Amérique et au Brésil. Et c'est là encore plus si on fait un amalgame avec le monde évangélique français.
Anne-Laure Danet, sur les clichés.
Ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est qu'ils sont très actifs pour dire leur foi auprès de leurs contemporains. Et parfois, ça peut gêner parce qu'ils ont une manière d'être et de faire qui est peut-être sans retenue, sans timidité. Ça, c'est un aspect qui peut parfois gêner. L'autre aspect, c'est que souvent, mais là aussi, ce sont des clichés, on les habille de positions très conservatrices, notamment sur le plan éthique. Et du coup, alors, ils sont catalogués dans une catégorie qui est fausse, parce qu'il y a une vraie pluralité, y compris sur ces positions-là.
Quel est le lien historique entre évangélique, protestantisme, réforme?
Ah ben, les évangéliques sont des protestants. C'est déjà ça le premier lien historique. C'est qu'on peut pas être évangélique sans être protestant. Et les racines du monde évangélique, elles plongent dans la réforme au XVIe siècle. Alors notamment à travers ce qu'on appelle la réforme radicale, parfois appelée les anabaptistes, qui estimaient qu'on devait aller plus loin que ce que proposaient Luther, Calvin, etc. Mais pas seulement. Les racines des évangéliques sont aussi chez Luther, sont aussi chez Calvin.
Lors d'année, c'est important de se dire que les évangéliques ne sont pas un courant né il y a 30 ans, mais que ça s'enracine dans une histoire commune.
Oui, c'est même essentiel. Parce qu'une église, elle est faite effectivement de un contexte social, elle est faite aussi par sa théologie, mais elle est faite aussi par une histoire. Et l'histoire des évangéliques en France, elle est rattachée à l'histoire du protestantisme en France, au cours des siècles, du 16e à aujourd'hui. Et comme le pasteur Miéville l'a rappelé, ses racines plongent dans la réforme du XVIe siècle. Ça, c'est essentiel. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu au cours de l'histoire, dans toutes les églises du protestantisme, des mouvements, des réveils. Elles ont toutes subi ces influences, heureusement d'ailleurs, parce que ça a amené des changements, des adaptations à la société. Et les évangéliques ont fait partie aussi de ces mouvements et de ces changements. L'autre point qui me paraît essentiel quand on parle des évangéliques et ce rapport à l'histoire, c'est que toutes ces églises, quelles qu'elles soient, ont un tronc commun qui fait qu'elles appartiennent à la famille protestante. Ce tronc commun, il est fait d'affirmations théologiques qui sont nées à la Réforme, et toutes nos églises se reconnaissent dans ces affirmations qui sont à la fois théologiques mais articulées aussi avec une insertion dans la société.
Alors je vous propose maintenant de revenir sur les convictions fortes du monde évangélique. Et une des premières, c'est ce lien très très fort, cette proximité avec le texte biblique. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Vincent Miéville ?
On peut en dire que c'est déjà une particularité protestante. L'affirmation « l'écriture seule, sola scriptura », c'est une affirmation fondamentale protestante. Donc dans ce sens-là, effectivement, les évangéliques sont attachés à l'écriture, à la Bible, notamment à la lecture personnelle. Il y a une insistance sur l'importance d'une lecture personnelle, régulière, dans sa piété personnelle. De la Bible. Et puis il y a, moi, ce que j'aime appeler un rapport confiant à la Bible, c'est-à-dire que un évangélique aura confiance dans ce que dit la Bible, considéré, reçu comme étant la parole de Dieu, la parole que Dieu nous adresse, et donc en évitant peut-être un regard trop critique sur le texte biblique lui-même, ce qui ne veut pas dire un regard naïf et uniquement littéraliste au premier degré. Il y a, je plaide en tant qu'évangélique pour une lecture intelligente de la Bible, mais cette lecture intelligente, elle est aussi confiante.
Anne Lordonnet, est-ce que ça veut dire que par rapport à d'autres courants dans le protestantisme, les évangéliques vont peut-être éviter une lecture plus symbolique ou allégorique des textes qu'on peut retrouver dans d'autres courants ?
Je crois pas. Je crois que l'accent va porter, mais c'est pas réservé uniquement aux évangéliques, mais en tout cas l'accent va porter sur une lecture existentielle, c'est-à-dire répondre à la question « qu'est-ce que le texte me dit à moi aujourd'hui dans ce que je suis en train de lire ?» Et là aussi, les évangéliques, il faut pas trop caricaturer, mais ils sont aussi entrés dans des lectures plus complexes, c'est-à-dire qu'il n'est pas au ras du texte, même si il y a une attention à une lecture aussi à la maison, chez soi, personnelle. Mais je vois bien tout le travail qui est fait dans le domaine de la formation à l'étude de la Bible pour les membres des églises et pas seulement pour les futurs pasteurs, montre bien qu'on est dans une démarche où là aussi les tendances se mélangent aussi.
Alors je vous propose maintenant de voir les autres axes forts qu'on trouve chez les évangéliques, ce qu'ils croient, et je vous propose d'en parler en les évoquant ensemble. Il y a un attachement très spécifique à la doctrine. On parle des évangéliques comme des églises de professants qui adhèrent à un contenu. Il y a aussi une insistance sur la conversion et on en parlait tout à l'heure sur l'évangélisation.
Je crois que l'accent pour comprendre justement ces accents qui sont donnés à la doctrine, à la conversion, à l'évangélisation, moi j'en rajouterai encore un, à l'importance de la communauté. qui est un vrai lieu de vie. C'est l'idée que l'Église, elle est faite de croyants. Donc d'hommes et de femmes qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ.
Et qui sont pleinement engagés.
L'accent aussi sur l'évangélisation, ça il me semble que c'est un point qu'on retrouve dans l'ensemble des églises évangéliques. C'est-à-dire, cette foi que j'ai reçue, qui me fait vivre, elle n'est pas pour mon confort personnel, et je suis chargée d'en être le témoin auprès de tous ceux que Dieu met sur ma route.
C'est important, Vincent Miéville, de partager sa foi, on l'entend, d'être cohérent avec ce qu'on a reçu, c'est ce que nous dit Anne-Laure, mais est-ce que parfois on ne va pas trop loin? Est-ce qu'il n'y a pas des risques de faire peur justement aux autres?
Alors des risques, il peut toujours y en avoir, ça c'est sûr. Mais je crois que la conviction, une conviction forte pour les évangéliques, c'est de dire que l'évangile c'est une bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle, elle est pour tous. Alors, c'est ça la motivation première. Pourquoi la garder pour soi si elle est pour tous? Donc, il y a l'idée de partager cette bonne nouvelle et de la transmettre. Bien sûr qu'il peut y avoir des excès. Bien sûr que parfois, ça peut se vivre de façon un peu agressive, un petit peu insistante. Bien sûr. Mais la plupart du temps, ça se vit de façon vraiment respectueuse des convictions des uns et des autres. Et c'est logique, parce qu'en fait, la foi pour un évangélique, elle peut pas s'imposer. C'est, par définition, c'est impossible. Puisque la foi, c'est un engagement personnel. On ne naît pas chrétien, on le devient. Et de même, dans une église évangélique de professants, on devient membre d'une église évangélique par choix, sur la base d'une foi personnelle. Et donc, s'il y a une insistance sur cette foi personnelle, personne ne pourra obliger qui que ce soit à croire. Donc, le témoignage ne peut être qu'un témoignage, un partage de l'expérience vécue, peut-être une invitation, un encouragement à découvrir soi-même.
Mais beaucoup de liberté, en fait.
Avec une liberté fondamentale. Elle est au cœur de la démarche.
Je vous propose maintenant de faire une pause musicale avec un titre qui comptabilise plus de 333 millions de vues sur YouTube. Ce nom si merveilleux, alors c'est un titre en anglais qui a été traduit en français, de l'église Hillsong, qui est également membre de la Fédération protestante de France. Je vous propose d'écouter ce chant maintenant.
Tu étais là, dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux.
Alors, je suis en compagnie de Vincent Miéville et Anne-Laure Danet pour discuter du monde évangélique. On a parlé des convictions fortes des évangéliques. Il y a aussi une grande diversité chez les évangéliques. Comment on peut identifier les différentes familles du monde évangélique, Vincent Miéville?
Pas facilement. Non, c'est-à-dire qu'il y a, une diversité où il y a quelques caractéristiques qu'on peut donner, mais les frontières ne sont pas tranchées. Je pense que c'est une des particularités du monde évangélique d'avoir ce foisonnement de diversité aussi dans l'organisation de façon institutionnelle, je dirais. Mais traditionnellement, on pourrait dire qu'il y a quand même une famille qu'on pourrait dire pentecôtiste et charismatique. On va les mettre un peu dans la même catégorie, bien qu'il y ait des nuances, hein, qui sont au niveau de la piété, des églises qui insistent, qui ont peut-être une foi assez extérieure, qui insistent beaucoup sur l'intervention de Dieu ici et maintenant, avec les manifestations diverses de l'Esprit Saint, et puis une attente aussi de Dieu qui intervient, qui guérit, qui intervient directement dans la vie des gens. Et puis l'autre grande famille serait celle qu'on pourrait appeler la famille piétiste, liée à la piété, c'est-à-dire avec une insistance forte sur la piété personnelle et communautaire, qui passe beaucoup par la prière, par la lecture et la méditation de la Bible, et une foi qui sera peut-être un peu plus réfléchie, plus avec un fondement doctrinal et l'idée de vouloir défendre ce qui est considéré comme étant l'essentiel de la foi chrétienne.
Donc ça, c'est, on pourrait dire, les deux grosses familles.
C'est les deux grosses familles, en sachant que il y a des frontières poreuses entre les deux, et peut-être qu'elles le sont plus aujourd'hui qu'hier, et je pense que c'est plutôt une bonne chose, parce qu'il a pu y avoir dans l'histoire des évangéliques un petit peu des cristallisations et des malgré un petit monde des personnes qui se fréquentaient peu. Et les choses évoluent. Et avec cet échange un peu plus prononcé, il y a aussi des influences de type charismatique qui se retrouvent dans le mouvement piétiste, et puis des influences piétistes un petit peu dans le mouvement charismatique. Et ça, je pense que c'est plutôt une bonne chose.
Oui, en fait, cette diversité, Anne Lordanet, on la retrouve dans tout le protestantisme, ces courants qui traversent les différentes églises. Chez les réformés aussi, il y a un courant, on va dire, plus évangélique. Tout se croise et tout se mélange.
Oui, et c'est heureux, parce que il me semble que chaque courant rappelle une vérité de l'Évangile. Alors, en mettant un accent sur cette vérité, elle la rappelle aussi aux autres. Et c'est normal qu'il y ait cette porosité. D'ailleurs, on pourrait aussi ajouter que la porosité, elle se fait par les membres eux-mêmes, qui passent d'une église à l'autre, et ça gêne personne, parce que, voilà, on déménage, il n'y a pas forcément la dénomination dans laquelle j'ai été habitué à vivre, et ben, je vais dans une autre église dans laquelle je vais me sentir bien, parce qu'elle est très proche, je vais entendre peut-être d'autres accents, mais au contraire, ça va m'enrichir. Et c'est ça peut-être la force de notre protestantisme, avec cette diversité qu'on essaye de vivre, quelles que soient les tendances, comme des richesses.
Donc, on peut vivre ces diversités ensemble, être dans l'unité. Vous avez préparé un texte biblique, justement, sur cette thématique, Anne Lordanet. Vous pouvez le partager avec nous.
Alors, c'est dans l'Évangile de Jean, au chapitre 15. C'est donc Jésus qui parle et qui dit « C'est moi qui suis la vraie vigne, et c'est mon Père qui est le vigneron. Tout sarment qui, en moi, ne porte pas de fruit, il l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il porte encore plus de fruits. Vous, vous êtes déjà purs, à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. Tout comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure dans la vigne, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. C'est moi qui suis la vigne, vous, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Hors de moi, en effet, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il dessèche. On ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples.
Alors, en quoi ce texte vous parle de l'unité, Anne Lordanet ?
Alors, il y a un mot qui est essentiel dans ce passage, mais qu'on retrouve dans tout l'évangile de Jean, c'est le mot « demeurer ». Et on le rappelait en disant un peu cette, finalement, cette spécificité du croyant en Jésus-Christ, c'est qu'il est lié à Christ parce que Christ a fait pour lui. Et c'est le sens de ce mot demeurer. Sans être uni à Christ, sans s'appuyer sur lui, sans être prêt à recevoir ce qu'il donne, on peut rien faire. Et qu'est-ce qu'il nous donne? C'est une vie nouvelle. Jean, l'évangile de Jean l'appelle la vie éternelle, mais c'est une vie qui est libérée, qui est apaisée, qui est réconciliée. On pourrait dire que c'est une nouvelle qualité de relation avec Dieu, avec soi-même et avec les autres.
Donc quoi ça nous aide à vivre avec les autres dans l'unité en fait?
Alors si je suis liée comme ça à Christ, parce qu'il m'a réconciliée avec moi-même, avec lui et avec les autres, ça veut dire que je suis unie par lui avec les autres.
C'est pas moi qui fais l'unité.
C'est pas moi qui fais l'unité.
C'est Jésus-Christ.
C'est lui qui nous unit les uns aux autres. Mais du coup, ça veut dire que cette qualité de relation qui est faite de joie, de paix, je peux la vivre avec les autres. Et c'est à ça que je suis appelée.
Vincent Miéville, sur ce texte, quelle est votre analyse?
Je partage évidemment cette analyse. Et je crois que là, on a quelque chose de fondamental dans la vie du chrétien d'une manière générale. Là, on est bien au-delà de la question évangélique, protestant ou autre. C'est le Christ. Et c'est ce qui est fondamental. C'est le lien, le rapport, la relation avec le Christ qui est au cœur de ce texte, qui nous invite à demeurer, à rester attachés au Christ. Ce que je trouve intéressant aussi dans la façon dont Jésus parle ici, c'est qu'il y a un appel individuel à chacun à rester attaché, mais qui est aussi un appel collectif. Il y a plusieurs sarments. Chacun est un sarment attaché à la vigne. Et je pense que plus on est attaché au Christ, plus on sera apte à être lié les uns aux autres aussi.
Alors, dans la Fédération protestante de France, il y a des églises, des unions d'églises évangéliques qui sont membres. Quel est le sens de leur engagement dans la Fédération protestante?
Alors, c'est d'abord, à mon sens, une évidence. Par le fait que les évangéliques sont protestants. La Fédération protestante accueille donc des protestants, donc les évangéliques en sont. Ça, pour moi, c'est la première évidence. Cet ancrage historique qui est essentiel. On peut pas être évangélique sans être protestant. Une autre raison spécifique, je crois que c'est pour les églises évangéliques membres de la Fédération protestante, une nécessité d'ouverture au dialogue. À tous les niveaux. Dialogue interne au protestantisme, dans cette diversité-là, et que le dialogue est fécond aussi pour réfléchir sur sa propre identité. Et puis un dialogue plus large aussi par le biais de la Fédération protestante avec les autres églises chrétiennes, avec les autres religions également, et avec la société, par les différents services qui sont proposés, dans lesquels les évangéliques de la Fédération protestante peuvent s'impliquer aussi, différentes aumôneries, etc. Et le besoin aussi d'une instance de représentation du protestantisme et dans sa diversité. Et donc, d'où l'importance d'une présence évangélique au sein de la Fédération protestante.
Anne-Laure Danet, vous, votre travail, précisément, c'est sur l'unité, sur le faire ensemble. Comment on fait quand on est parfois si différent pour avancer ensemble?
Alors l'enjeu, c'est effectivement d'apprendre à se connaître pour vivre une réelle fraternité, parce qu'on a besoin les uns des autres, parce qu'on n'est pas église tout seul. Alors il s'agit de se connaître pour pouvoir s'enrichir les uns les autres de ce qu'on est chacun, et de pouvoir aussi être présent dans la société par rapport à tous ces défis auxquels nous sommes confrontés. Les chrétiens ne sont pas en dehors du monde. Et vous savez très bien que plus on est ensemble, plus on est fort. Sur les questions de justice climatique, de pauvreté, de migration, etc., etc. Et nous avons à œuvrer ensemble, le pasteur Miéville le rappelait, par les services, mais aussi localement. C'est très important que nos églises travaillent ensemble, justement pour être ces témoins de ce qui nous fait vivre cet amour de Dieu. Et puis, quand on peut vivre une vraie fraternité, comme on le dit à la Fédération XXL, ça aussi, en soi, c'est un témoignage. C'est pas toujours simple tous les jours, mais c'est dans ce sens que nous œuvrons.
Le 30 novembre, la Fédération protestante organise un colloque intitulé « Les évangéliques de la Fédération protestante de France vers un nouvel élan ». Vincent Miéville, pour finir, quel est le sens et l'objectif de cette journée?
L'idée première, c'est de mettre en valeur, faire un peu mieux connaître cette composante de la Fédération protestante que sont les églises évangéliques, une composante dès l'origine de la Fédération protestante en 1905. Le premier président de la Fédération protestante était un évangélique. Et puis, il y en a eu d'autres, et puis il y a l'implication des évangéliques. Donc, parler d'un peu de l'histoire des évangéliques, de l'identité, de la diversité, et puis de sa place au sein du protestantisme en France, et en particulier de la Fédération protestante. On aimerait arriver à montrer ce que la Fédération protestante apporte aux évangéliques et ce que les évangéliques apportent à la Fédération protestante.
Et on peut encore s'inscrire sur le site www.protestant.org avec cette journée qui se finira à la mairie de Paris par une conférence du docteur Mukwege. Merci pour cette discussion. Anne-Laure Danet, je vous propose de finir avec une prière que vous avez sélectionnée pour nous.
Oui, c'est une prière de Martin Luther King, pasteur baptiste afro-américain, qui a été un militant non-violent, qui s'est battu contre la ségrégation raciale aux États-Unis, mais on le sait moins, qui s'est aussi battu contre la pauvreté, et qui, là aussi, là pour le coup on le sait, qui a été assassiné donc en 68. Et j'ai choisi cette prière parce qu'elle est d'une étonnante actualité. Ô Dieu, notre Père du ciel, nous te remercions pour ce privilège merveilleux de pouvoir t'adorer, toi, le seul vrai Dieu de l'univers. Nous venons à toi aujourd'hui, plein de reconnaissance que tu nous aies gardés à travers la longue nuit du passé et nous aies fait entrer dans le défi du présent et la brillante espérance du futur. Nous savons, ô Dieu, que l'homme ne peut se sauver de lui-même, car l'homme n'est pas la mesure des choses et l'humanité n'est pas Dieu. Ligotés par les chaînes du péché et de la finitude, nous savons que nous avons besoin d'un sauveur. Aide-nous à ne jamais laisser quelqu'un ou une situation nous pousser si bas que nous en venions à haïr. Donne-nous la force d'aimer nos ennemis et de faire le bien à ceux qui méchamment nous utilisent et nous persécutent. Nous te remercions pour ton Église fondée par ta parole. Elle nous provoque à faire plus que chanter et prier, c'est-à-dire à aller dans le monde et travailler comme si la vraie réponse à nos prières dépendait de nous et non de toi. Aussi finalement, aide-nous à réaliser que l'homme a été créé pour briller comme les étoiles et vivre pour l'éternité. Garde-nous, nous t'en prions, en parfaite paix. Aide-nous à marcher ensemble, à prier ensemble, à chanter ensemble et à vivre ensemble jusqu'au jour où tous les enfants de Dieu, noirs, blancs, rouges et jaunes, se réjouiront en une seule humanité commune dans le royaume de notre Seigneur et notre Dieu. Amen.
Merci beaucoup Anne-Laure Danet, pasteur et responsable du service des relations avec les églises chrétiennes à la Fédération protestante de France. Merci beaucoup Vincent Miéville, pasteur et président de l'Union des Églises évangéliques libres, pour cette discussion qu'on a eue ensemble sur les évangéliques. Ainsi s'achève le service protestant proposé par la Fédération protestante de France et présenté par Benjamin Bories. Merci à Delphine Lemaire pour la réalisation et à Philippe Mercher pour la prise de son. Si vous avez des questions ou des remarques, écrivez-nous au service protestant 47 rue de Clichy 75 009 Paris. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur les sites franceculture.fr et protestantpluriel.org. Vous pouvez également nous retrouver sur votre application préférée de podcast en tapant « Service protestant ». Restez à l'écoute de France Culture pour les informations à 9h, suivi à 9h10 de Talmudic, présenté par Marc-Alain Wachnin. Bonne journée à vous sur France Culture.